J'oublie. Top, Béchem, Hachem, Nassé, Vénassé, on est là pour la suite du chiour de nos sages racontes. On est toujours le jeudi 19 du mois de novembre et le 3 du mois de Kislev, le Chem Tovim Shalom. Chiour pour l'élévation de l'âme. Famille Seror pour l'askara de leur papa, Yaakov Roger Ben Birsa et Khatani. זיכרונו לברכה, רוח השם, תנחנו בגן העדן עליון וכל השורבים עמו, בכלל הרחמים והסליחות וכן ירצון ומאמן, תהי נשמתו צור החיים וכל מרידו לתורה, בעזרת השם ברך, תגן בעדו ותעלה את נשמתו כזור הרקיע, בגן העדן עליון, אמן ואמן. On a déjà cité tout le malade, les nishmats, on commence tout de suite le shiur avec nos sages racontes. Je disais en hébreu que le mérite de cette étude fasse monter sa neshama, puisque c'est, je crois, ce soir, sa askara. Ok. Ezrat Hashem Barach. Nous sommes avec Esav maintenant qui rentre pour prendre la bénédiction chez son père Yaakov. Il comprend que Yaakov n'est pas chez juste avant, qu'il a pris la bénédiction. On a vu que Yitzhak a failli maudire Chazvé Shalom Yaakov. Dieu intervient en lui disant: depuis quand tu crois que ta bouche t'appartient? N'oublie pas que c'est moi qui l'ai utilisée, et que Yitzhak doit confirmer la bénédiction de Yaakov. Alors vous savez que dans la vie, on peut avoir des conflits où on a raison. Est-ce que c'est suffisant? Non. Même quand on est jugé après la mort, et que les faits sont devant nous, puisque nous créons, pour le bien comme pour le mal, des anges qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau, s'ils sont blancs, c'est positif, s'ils sont noirs, c'est négatif, dans ce que explique le Zohar à Kadosh, eh bien, malgré tout, on ne punit pas une personne jusqu'à ce que la personne reconnaisse. Par exemple, dans les Batei Mishpat, ici en Israël, je pense que ça doit être partout pareil, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble que oui, on a l'habitude de dire à la personne: est-ce que tu reconnais? Atamodé, est-ce que tu acceptes? D'accord? Alors, par exemple, si une condamnation se fait et que la personne est condamnée à 20 ans de prison, chas v'shalom, d'accord ? On ne va pas lui dire: est-ce que tu es d'accord ? Je connais un cas, un condamné qui va dire: ouais, d'accord. Il va dire: non, je ne suis pas d'accord. Je reconnais que j'ai tué, il va dire, mais je n'accepte pas les 20 ans de prison. D'accord ? Alors, dans le judaïsme, ce n'est pas comme ça. Par exemple, une personne voit qu'un de ses ouvriers vient tout le temps en retard. Il le prévient une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, mille fois, il n'y a rien à faire. Le mec, il vient en retard. Chez les nations du monde, ça se traduit par tu prends des affaires, tu te casses. Oh, je te dois rien. Comme aux États-Unis, c'est du jour au lendemain, il n'y a pas de préavis, en général, t'es viré. Dans la Torah, c'est interdit de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas moral. Comme tu as un avraire, il n'étudie pas, il chauffe les bancs. Tu ne peux pas le renvoyer jusqu'à ce qu'il dise « j'accepte ». Ça veut dire quoi « j'accepte » ? Je m'explique. Quand tu le mets face à un fait accompli, donc tu lui montres qu'il n'est pas sérieux, qu'il ne te rapporte rien, tu lui montres des chiffres. Regarde, on avait conclu quand je t'ai engagé que tu devais faire tant. On a coupé la poire en deux parce que les temps sont durs, j'ai fait tant. J'ai coupé la poire en deux, deux fois de suite. Même un quart, tu ne remplis pas ton rôle. Donc voilà ce que je paye, voilà ceci. Tu comprendras que je ne peux pas te garder. Si la personne ne dit pas « je comprends », c'est un problème. Il faut qu'il parte sans « ogmat nefesh ». Ça veut dire sans, comment on appelle ça ?« ogmat nefesh » en français, sans rancœur. C'est-à-dire et donc dans ce cas-là, il va falloir argumenter humblement avec lui en disant: si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait ? Il va te répondre: bah, j'aurais dit « prends la porte ». Donc tu me comprends. Oui, alors tu peux prendre la porte. Ah ben, s'il part « be ogmat nefesh » et que pour lui, il a subi une injustice, ça peut créer un grain de sable dans le rouage du mazal. Ce qui fait que il y a toujours cet argument à prendre avec beaucoup d'humilité, que quand tu veux renvoyer une personne, tu es dans ton droit. Tu dois le renvoyer. Si tu dois le renvoyer, tu dois le renvoyer. Je dis souvent, quand vous faites du social avec le professionnel, vous allez droit dans un mur. Travail, social, c'est social. C'est-à-dire, tu peux aider une personne, par exemple, en disant: voilà, écoute, je te fais une prime parce que je sais que tu n'as pas d'argent, mais sache que tu ne la mérites pas. Je te fais une prime parce que Mitzad a Chesed, je devais donner du maaser, je te le donne à toi, à la limite. Tu peux dire comme ça. de faire attention de ne pas mélanger les deux dans le domaine professionnel, sinon un carré, c'est pas un rond. C'est, tu peux faire les deux ronds quand tu veux, mais travail, c'est travail. Il ne faut pas mélanger les deux. Moi, j'ai souvent fait très attention à cela. Je me rappelle, j'ai rencontré une personne qui m'a raconté un jour qu'il avait gardé ses ouvriers pour faire du chesed. Je lui ai dit alors, il me dit, j'ai coulé. Il ne faut pas mélanger les deux. Domaine professionnel, c'est professionnel. Travail, c'est travail. Chesed, c'est chesed. Que tu fasses du chesed dans le travail, ben d'accord, que tu peux, faut être cool, faut être sympathique, faut être social. Pas mélanger les deux. Mais quoi qu'il advienne, quand par exemple une âme décède et qu'elle arrive devant Dieu, Dieu lui dit, voilà, là j'ai n'importe quoi, tu dois descendre au Gehinnom. D'accord ? La personne dit, je ne veux pas y aller. Anilo modé. Alors Dieu lui dit, ben regarde, retourne-toi. Enfin, pas besoin parce qu'ils sont tous autour de lui maintenant. Il dit alors, là, qu'est-ce que tu en penses ? Il dit, c'est pas moi. C'est très bien, on refait le vide, la caméra montre que c'est toi. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu dis ? Ben, c'est moi. Il dit, d'accord ? Alors ? Il dit, ouais, mais j'ai eu un Yetzerara. Un Ruach Tout qui est rentré en moi. Dieu lui dit, ok, et alors ? Alors ? Ça égale ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Bon, c'est vrai, je reconnais. Mais pourquoi 3 mois ? Il dit, pourquoi 3 mois ? Parce que les clipotes que tu as engendrées, c'est que 3 mois pour l'instant. Mais le problème, c'est que tu as emmené des gens avec toi qui eux aussi fait des péchés. Donc il va falloir que tu payes pour eux aussi. Donc c'est pas que 3 mois. Il dit, attendez. Moi, j'ai fait ça, mais je ne veux pas être responsable d'eux. Il dit, viens, regarde maintenant sur Terre, regarde comme ça, par une caméra, si tu veux, une espèce de télévision. Il dit, regarde. Toi, tu es décédé, mais eux, ils continuent ce que là, toi, tu les as emmenés faire. Et la personne, elle pleure. Parce qu'elle voit que c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle dit à Kadosh Baruch Hu ? Reni mekabel alay et adin. Je prends sur moi la justice. Zemet. Et la personne, avant de descendre au Gehinnom, crie Hashem hu ha'elokim, Hashem hu ha'elokim. Dieu est justice. Dieu est vrai. Si la personne ne crie pas ça, elle ne peut pas descendre. Elle ne peut pas descendre. La différence qu'il y a, c'est qu'on peut vivre dans le déni dans ce monde. On peut tromper les gens, on peut effacer les caméras. Dans le monde d'en haut, on ne peut rien effacer, on peut pas. Il n'y a pas de déni, il n'y a pas de « non, je ne reconnais pas, c'est pas moi ». Ça s'appelle le monde du émet. Le émet, il est tellement virulent que tu ne peux pas le nier. Ce qui fait que les gens, par exemple, il y en a qui se plaignent du Gan Eden qu'ils ont. Je pense que je mérite, je demande un ir-our, c'est-à-dire, je veux un rejugement. Et ce rejugement, il a tout le temps lieu, chaque anniversaire, comme l'Askara par exemple, en disant, pourquoi je veux mieux ? Parce que voilà, mes enfants, ils ont acheté un cours, voilà, ils ont fait le Shabbat, voilà, ils sont dans la Torah. Et Dieu dit, il a raison. Et Dieu dit, lui, il a raison. Comme on voit avec Rabbi Yoshua, qui arrive à convaincre Dieu qui verrole, et qu'est-ce qu'il dit ? Tzadak mimeni, il a raison. On voit qu'à quel point il accepte. Quand il dit, pousse-toi, je vais exterminer ce peuple, il dit, oh, tu peux pas faire ça. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que Pharaon, il a dit que tu allais le faire. Donc tu perds vis-à-vis de Pharaon. Ah ouais, t'as raison. Dieu, il descend à notre niveau, il n'a pas besoin. C'est lui qui donne les arguments que nous, on puisse lui donner. Donc, mais juste pour l'idée générale. Même le créateur du monde, quand, par exemple, tu fais la hitbo des doutes, et que la personne dit, Ribbono shel Olam, j'ai donné mon maaser dans les moments les plus durs de ma vie. Aujourd'hui, peut-être que j'ai fauté, peut-être que je suis pas bien. Mais tu as promis quelque chose. Aujourd'hui, j'attends en retour de toi. J'ai respecté mon père et ma mère. Tu peux pas me faire ça, Hachem. En une semaine, tout son mazal peut changer. Mais s'il vit dans l'objectivité, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font Zera Levatala, ils trompent leur femme, ils font des bêtises, ils parlent mal, ils font du Lachonara, ils disent à Dieu, ouais, mais j'ai donné, Baba, t'es gentil, t'as donné ce que tu veux, t'as un découvert de l'autre côté, je te raconte pas. Si je te donne maintenant, tu meurs de l'autre côté, parce que les autres, les anges accusateurs, ils veulent te bouffer, mon pote. Donc fais attention, parce qu'à force de demander à droite, tu vas finir par la gauche, et bien sauf tu vas tomber en bas. La reine, il y a des contes que Bémet, Akadosh Baruch Hu, d'où l'importance de la Hitbo des doutes de Rabbi Nachman, qui dit, va parler avec Hachem, essaie de le convaincre. Et Bémet, il faut le convaincre. Avec des larmes, je sais, j'ai pas été bécédère, j'ai fauté, j'ai... Ok, je suis un humain, j'ai mis du temps à faire tchouva, mais il faut me comprendre. Maman, essaie de le persuader. Fais-le. Si tu y crois, il y croit. Si tu y crois pas, il y croit pas. Avalte d'aber el libo. Maman, il lève la lève. Va, d'accord, je vous Bémet, chomer. Et si tu as raison avec tes arguments, tu verras des changements dans ta vie. Mais si tu t'en tiens à dire, de toute façon, c'est n'importe quoi, alors reste dans ton de toute façon et vis ta vie. Reste dans la médiocrité de ton esprit, parce que c'est vraiment une médiocrité de penser comme ça, sans juger, c'est vraiment une médiocrité de ne pas comprendre que Dieu nous aime et que, comme un père qui veut un dialogue, on doit prier. Et vous avez vu que Esav, dans le cours précédent, n'a pas de dialogue avec Dieu. Il met tout sur le domaine du hasard, de la malchance, j'ai pas de chance, c'est pas normal. Et pour qui tu te prends ? Il y a un Mashgiach. Et on voit que la réponse est quoi ? Qu'au moment où Yaakov sort, Dieu l'a fait en sorte. Il a vraiment de l'humour. Il faut faire ça un petit peu avant. Non, Dieu dit non. Quand toi, tu rentres, la porte, elle tourne, elle pivote, et lui, il sort. Au même moment. Pourquoi Dieu fait ça ? Pour montrer à quel point il est précis que rien n'est la clé du hasard sur Terre. À col, tikkun, à col, mais est Hachem.
On est tous téléguidés quelque part ?
Non, on n'est pas téléguidés. Seulement, Dieu va... C'est une très bonne... Alors, Non, pas col à cabode. Je reviens en arrière. Après, je dirai col à cabode. Je reprends le col à cabode. Un homme doit être cambriolé. Pourquoi ? Parce que c'est où il meurt d'un accident de la route, chas v'shalom, ou on lui, pritsat bait, on lui cambriole sa maison. D'accord ? Donc cette personne-là a du mérite, ses enfants ne méritent pas un père qui meurt, toutes sortes de choses, j'en sais rien, il y a toutes sortes de comptes dans les cieux. Et en tout cas, ce n'est pas le moment pour les enfants qu'ils partent, que ce soit clair. Et il va falloir qu'ils soient cambriolés. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire, le cambrioleur, en fin de compte, c'est un ange de Dieu. Réponse, pas du tout. C'est une pure ordure qui mérite bien la prison et une bonne raclée une fois pour toutes. Alors, pourquoi tu dis d'un côté, il doit se faire cambrioler en contrepartie de sa vie, et de l'autre côté, tu dis, le cambrioleur, c'est un rachat. Réponse très simple. Dieu a cherché qui sur Terre voulait être un voleur, voulait cambrioler, de lui-même. Il dit, moi, je veux être le pourri qui va faire du mal. Très bien, j'ai besoin de toi, justement. Donc, tu vois bien que ce n'est pas téléguidé. C'est que Dieu a ses plans, mais il n'aurait jamais pris quelqu'un qui ne veut pas cambrioler pour aller cambrioler. Il cherche des voyous qui sont en train de dire « Tu n'as pas une maison dans le coin, là, qu'on se passe ta maison, là ?» Des jaloux, mécréants qui ne savent rien faire de leur vie, au lieu d'apprendre un métier, au lieu de commencer en bas de l'échelle et d'accepter monter, non, l'argent, tout de suite, le bien des autres m'appartient. Jamais je m'en verrai. Donc c'est ce que tu veux. Il les voit, ces trois voyous, là, qui sont en train de dire « qui on peut faire du mal ?» À qui on peut faire payer quelque chose ? De qui on peut être encore jaloux sur Terre ? Il dit, tiens, il y a trois yens ici. Je parle des yens. Ça tombe bien. J'avais besoin de quelques yens pour aller faire ceci. Donc, est-ce qu'ils vont payer ? Bien sûr, sinon le mec il se fait arrêter par la police, en plein cambriolage. Rabotai, on est en Israël. Et Shem Echut Kutcha Belchou, j'étais envoyé par le Seigneur. Il avait un tikkun, Gamzol et Tova. Vous êtes fous, quoi ? Le Seigneur m'a envoyé. Dans l'absolu, Béhémet, Hachem l'a envoyé. Dans l'absolu. Hein ? Je vais raconter une anecdote qui s'est passée. Un jour, à Jérusalem, je reviens à la maison et ils ont tout volé. Quand je vous dis tout, tout. C'est-à-dire même pas, j'avais même plus de slip. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti les draps. Ouais. Et ils ont carrément tout jeté dans les draps, fermé. Jeté dans les draps, fermé. Comme il y avait beaucoup de draps, ça nous a mis dans le beau drap. Résultat, on rentre à la maison, il n'y a plus rien. Le plus marrant, c'est que ma femme, à l'époque, elle avait fait un super plat, je crois que c'était la psaloubia, je ne me rappelle pas.
Ah oui.
Ouais. On arrive à la maison, on voit quatre plats. Ils ont fini aussi la psaloubia. Les voleurs, ils ont tranquillement, ils savaient qu'on était à Tel Aviv ce jour-là, toute la journée. Ils ont sorti les assiettes, ils n'ont pas volé par contre. Mais ils n'ont pas fait la vaisselle. Donc on arrive comme ça, on voit sur la table, quatre assiettes, le tagine au milieu, et il n'y a plus rien. Au moins, ils ont mangé halak. Donc, Eliaou était petit, la première chose que dit Eliaou à l'époque, que Dieu le bénisse, il dit, « Tov, papa, tu as toujours dit, tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. » Alors je dis, « Moi, j'ai pas de problème, elle va dire ça à ta mère. » Il n'y a plus rien. Quand je dis plus rien, il y a un chandelier en or qui nous avait été offert pour Marianne. Plus rien. « Gamzou le Tova. » Et à ce moment-là, pas contente la madame, parce qu'ils ont volé tous les bijoux. Et il y avait beaucoup de bijoux. Et tous les bijoux. Et ils ont volé tous les bijoux. Et plus rien. Alors, elle dit à ce moment-là, oui, mais enfin bon, ils ont tout volé, d'accord, mais les bijoux, non. J'étais très attaché aux bijoux. Le soir arrive, et elle rêve de mon père, qui vient la voir et qui lui dit, c'est moi qui ai envoyé les brigands. C'est moi qui ai envoyé les voleurs. Mon père était décédé depuis Shnat Alpaim. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un décret dans le ciel, et j'ai préféré qu'il vous cambriole, qu'il arrive quoi que ce soit. Magnifique. Et à ce moment-là, elle répond, oui d'accord, mais mes bijoux, je sais que tu as les toines sur les bijoux, ils sont juste derrière, je les ai fait tomber quand ils sont passés de l'autre côté du jardin, je les ai fait tomber dans les buissons. Demain matin, quand tu te réveilles, va les prendre. Le lendemain, elle se réveille, elle me dit, j'ai rêvé de ton papa qui m'a dit que les bijoux, ils ont pas réussi à les prendre. Parce que ça me tenait trop à cœur. Alors, je lui dis, ok. Le lendemain, on vient pour partir, elle me dit, tu passes pas de l'autre côté? Je lui dis, si, on va y aller. On va de l'autre côté. Je regarde et je vois rien. Elle me dit, mais ton père, il m'a dit qu'ils étaient là. Je dis, si mon père vraiment était dit qu'ils étaient là, bonne échappée. Je prends un bois comme ça, un bout de bois, et je pousse un peu les buissons, et je vois effectivement que toute la sacoche de bijoux était dans les buissons derrière la maison. Ils l'ont fait tomber. Elle est tombée par un trou de truc. Venafan. En ce qui concerne le reste, l'assurance nous a remboursé absolument tout. On a pu racheter absolument tout en neuf. La Kolaya, super l'Etova. D'ailleurs, j'ai même dit, faudrait les inviter. On a tout acheté en neuf, nickel, machin. Bon, ça a pris un peu d'âge, quoi. Tout nickel, tout neuf, Kol Tov Yafé. Kol Ayam Mash L'Etova Bilibracha. Donc, oui, Akadosh Baruch Hu, il envoie, certes. Là, tu vois, dans ce cas, c'est mon père qui est venu dire il y avait quelque chose, j'ai envoyé. J'ai préféré qu'il vous cambriole. C'est mignon. Mais les cambrioleurs méritent d'aller en prison. L'un n'empêche pas l'autre. Ils se sont portés volontaires, ils ont fait leur coup, ils ont calculé à quelle heure on partait, à quelle heure on venait. Ils étaient en face sur le banc. Ils ont bien, bien calculé. Mais là, quand la colle, bah, je gâche à pratit.
Oui, ça, il est parti ça avant. Dieu, il les a mis dans le sein de la Rishka. Et ça, et Yaakov. Il a prévu mais tout cela.
Qui Yaakov ou Esav?
Les deux. Il a dit que Esav sera comme ça. Donc il l'a mis dans le sein dès le début. Je ne sais pas, il intervient quand même.
Peut-être.
Ce qu'il a fait, c'était prédestiné, d'une certaine manière.
Prédestiné, non. Et je voudrais encore une fois de plus répondre à cette question de prédestiné. Prédestiné veut dire un destin préparé. Encore une fois, les destins sont, oui, préparés à l'avance. Que ce soit très clair. Ça veut dire que si vous allez à droite, tout ce que vous allez rencontrer est déjà maintenu depuis la création du monde. Ça vous attend. Les gens que vous allez rencontrer, les gens avec qui vous allez travailler, ce qui va se passer. Mais quitte à aller à droite, peut-être aller à droite, droite, ou alors gauche, ou gauche. C'est le mal d'avoir donné. C'est comme si que maintenant, je prépare quatre chemins. À l'intérieur, je vais mettre des obstacles. Je vais mettre toutes sortes de choses que vous allez rencontrer. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard parce que je les ai préparés. Ainsi fait Dieu. Tu fais tchouva. Tu vas à la Beth Knesset. Tu es kobay tim la Torah. Tu prends des rails, une voie dans ta vie. Alors, tu vas rencontrer le Rav. Alors, tu vas rencontrer des amis. Alors, tu vas rencontrer le Rav. Tu ne vas pas là-bas. Ta vie, c'est les peuples, c'est les gonzesses, c'est faire des bêtises. Il y a aussi toutes les mauvaises personnes qui t'attendent là-bas. Et aussi les bonnes, s'il y en a. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que là où tu vas t'asseoir, les lieux, les ceci et cela, tout est préparé. Alors qu'est-ce que le libre arbitre? Qui t'a demandé d'aller là-bas ou qui t'a demandé d'aller là? Ça, c'est toi qui choisis. Tu comprends la différence? Esav aurait pu, s'il avait accepté de demander de l'aide, s'en sortir. Mais est-ce qu'on le voit une seule fois demander de l'aide? Non. Ah, Hadaïn Kas Yitzhak Al Yaakov, Shenatal et Abrachot Bemirma, Val Kalelo. Shal Aviv, Maïchalcha, Ma Echilcha Yaakov. Alors, ce qui est très curieux, c'est que Esav va poser une question qui est très inattendue à son père Yitzhak. Il lui dit, qu'est-ce que tu as apporté à manger, Yaakov? J'aurais répondu, Machpat Lecha. En quoi Béhémet ça intéresse, d'après vous, Esav, de savoir qu'est-ce qu'a mangé, ou plutôt qu'est-ce qu'a apporté Yaakov à Esav? Magnienne, cette question-là. Qu'est-ce qu'il t'a apporté à manger? Pérouche à d'avoir, est-ce que le hasard était avec lui quand il n'était pas avec moi? Est-ce que le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre? Ou le contraire? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il te reste encore de la place dans l'estomac? D'accord? Amarlo eni yoder. Ach ayu matamim, shelo matame, shel madanim, arevim, shebaolam. Il lui a dit, je ne sais pas ce qu'il m'a préparé à manger, mais ce que je peux te dire, c'est que je n'ai jamais mangé un plat aussi merveilleux et aussi bon à mon palais. Car Yitzhak ne sait pas mentir. Mikol machinivra, mishéchet imamé asebereshit. Depuis les six jours de la création du monde, rien n'était aussi bon que le plat qu'il m'a préparé. Vaf ta'amam shel ma'achalim shatid akadjoukhou la'achil et tzadikim latid lavo. Même ce que Dieu va préparer pour les tzadikim à la fin des temps pour le dernier repas n'était pas aussi bon que ce que m'a donné C'est vraiment de quoi mettre hyper en colère Esav. Tam tibahem kol tam shehah birtoni. Il lui dit quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Mais il lui dit, sache que ce que m'a apporté ton frère n'est pas du monde d'en bas. C'est un manger spirituel. Et Esav lui dit, qu'est-ce qu'il avait ce plat de spécial que t'as apporté Yaakov ? Il s'intéresse, mettons le monsieur. Il lui dit, eh bien, c'est très simple. Tam tibahem kol tam shehah birtoni. La nourriture prenait le goût de ce que ma pensée voulait. C'est de la manne. La manne est tombée dans le plat qui a été servi à Yitzhak. Tam pat, tam dagim. Alors que je mangeais la viande, je voulais que ce soit du poisson, du saumon, du thon. Et automatiquement, le goût se changeait dans mon palais. Tam basar. J'aurais pu faire halavi. Kevan, shiskir, Yitzhak basar. À partir du moment où Yitzhak a dit le nom Bassar, « Miaditri Esav Boche » et dès qu'il a dit « Et j'ai aussi mangé de la viande », c'est-à-dire j'ai fait le goût de la viande, tant qu'il ne parlait pas de viande, Esav, il écoutait. Dès qu'il a dit « J'ai aussi mangé de la viande », tout de suite, Esav s'est mis à pleurer de toute son âme. « Amar jujish kara ahat shel adashim et chilani lakach memini Yaakov et tibirchati bechorati » Et là, pourquoi il s'est mis, il a eu des boules. Regardez combien c'est bas un rachat. Il dit quoi, t'as aussi mangé de la viande ? Il t'a pris la bracha. Il dit, moi, je me suis fait avoir. Pour un plat de lentilles sans viande, j'ai vendu mon droit d'aînesse. Esav. Il dit, la viande, c'est un plat riche. Il dit, moi, pour un plat de lentilles qui est un plat de pauvre, j'ai vendu ma bechora, c'est-à-dire ma bénédiction, mon monde futur, j'ai tout vendu. L'endroit de ma kvoura, j'ai tout vendu. Ce message, il est pour nous. Tu as basé toutes les richesses spirituelles pour des moments futiles, comme on l'a dit deux jours dans un shiur. Kevan shiskir Yitzhak basar miaditri esav dikwa amar bishvil zekara shel adashim echilani lakach mimini et bilchati ata elcha basar alachat kama vechama shelakach mimcha et kol habrachot. Il dit, moi, pour un plat de lentilles, je vais vendre juste mon droit d'aînesse. Alors toi, qu'est-ce que tu lui as donné pour de la viande ? Amar lo Yitzhak et bilchati lakach. Et étant donné qu'Yitzhak, vous savez que les Réchaïm, ils ont un problème, ils parlent trop. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Maintenant, lui, il a les boules, Esav. Il dit à son père, je lui ai vendu mon droit d'aînesse. Maintenant, Yitzhak n'est pas au courant de ça. Dès qu'il a entendu ça, Amar, Imken Yaakov a Bechor, Betov a Siti. Il lui a dit, tu viens de me confirmer que donc Yaakov n'est pas venu comme un arnaqueur, n'a pas menti. Et qu'il a bien fait de venir. Baruchie, il a dit. Je confirme sa bénédiction. Moi, j'étais en colère contre lui parce que je n'étais pas au courant. Mais si tu as fait un contrat avec lui, tu lui as vendu ton droit d'aînesse, la bracha ne t'appartient pas, elle lui appartient. Baruchie. Il restera béni. Et il parle trop, les Réchaïm. Imken Yaakov ou Abechor, Vetov Asiti, Shibrachati Oto, qui lo magia abracha, Vepsik leitztaer al Shibrach et Yaakov. Et il y a à ce moment-là, Yitzhak a cessé de s'en vouloir d'avoir béni Yaakov et avait compris que Be'emet Be'tzedek Pa'al. Donc tout à l'heure, on a vu que il ne suffisait pas qu'on dise à une personne qu'on a raison, même si on a raison, il faut aussi que lui l'accepte. D'accord ? Donc on a vu que maintenant Yitzhak a accepté ce qu'il a fait. Mais est-ce que Esav l'accepte ? Non. Quand est-ce qu'il va l'accepter ? Hein ? Non ? On a dit qu'il faut que les deux parties acceptent. Complètement. Non. On a dit que quand une personne, par exemple, moi je te virais, shalom, ok, je te prouve par A plus B pourquoi je te virais d'ici. Tu ne peux pas partir jusqu'à ce que toi tu me dises tu as raison. Donc il faut qu'il y ait une reconnaissance en face. Pour ne pas que tu partes avec Augmente Nefesh. Oh, il y a Femeur Zatchouba. Quand Yaakov va rencontrer le Iloui de Esav, l'âme de Esav en réalité, si vous préférez, l'ange protecteur d'Esav, il va se battre contre lui. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va lui dire l'ange, il va lui dire Israël. Tu t'appelles Yachar-El, tu es quelqu'un de droit, tu n'es pas quelqu'un de tordu. Donc on voit que quand est-ce que Yaakov va accepter, cautionner la bénédiction de son frère, Esav va cautionner la bénédiction de son frère Yaakov, dans le fameux combat qu'on ira la semaine prochaine, dans deux semaines, pardon. D'accord ? Là-bas, il va l'appeler Israël. Et quelle différence ? C'est que quand on dit un juif tordu, on appelle ça Yaakov, Akev. Quand tu dis Am Israël, on ne dit pas le peuple de Yaakov, on dit le peuple d'Israël. Israël, c'est Yachar El, Yachar. On est droit. Et qui c'est qui nous a donné ce nom de Yachar El? Qui celui qui nous a appelé l'homme droit? C'est Esav. Esav, il fait tchouva, il dit Bémet ou Tzodek. Vous voyez bien que la justice, comme je vous l'ai dit, il faut que toi, tu dises et que l'autre, il accepte. Maintenant, pourquoi Yaakov, Yitzhak, pardon, était tellement mitzta'er, il était vraiment pas bien, parce que comme il n'a jamais fauté de sa vie, Yitzhak, il a eu peur qu'il n'a pas fait ce que Dieu aurait voulu qu'il fasse. Maintenant que Dieu lui a dit, oui, ce que tu as fait, c'est moi qui l'ai voulu. Il s'est calmé, mais il s'en est voulu en disant, d'accord, bon, Dieu, il a raison, mais Yaakov, malgré tout, ce n'était pas lui qui devait prendre la bracha. J'ai peur que la descendance de Yaakov le paye très cher. Viens Esav, il lui dit, tu te rends compte, je lui ai vendu mon droit d'aînesse. Il dit, oh punaise, c'est magnifique. Ça veut dire qu'en réalité, heureusement qu'il est venu. Parce que si je t'avais béni toi, je m'en serais voulu toute ma vie, tu ne méritais plus. Tu as vendu. C'est comme le mec, il a un terrain pour construire une maison. Il vend le terrain. Son jeune frère qui lui a acheté la maison, construit sa maison. Ok? Le père, il dit, mais pourquoi tu as fait ça sur le terrain de ton frère? Il dit, oh, il me l'a vendu. Ah, pardon. Mais je coteau d'abord.
Lorsqu'il a mis Yitzhak et Yaakov, il avait la marche à de Essa.
Hein?
Lorsqu'il a béni Yaakov, il avait la marche à de Essa, mais il ne savait pas qu'il était devant.
Et alors? Il a béni celui qui était en face.
Pourtant, on va voir la bonne cabane.
Est-ce que tu entends le nom Essa ou Yaakov dans la bénédiction? Vaïtan lecha Elohim, mita la shamayim mushnaret. De là, les Sfaradim, alpi alacha, n'ont pas besoin de donner le nom d'une personne quand ils le bénissent. Je m'appelle Yaakov ben Shimon. Il n'y a pas besoin. Les sages Kenazim, ils le font avec le nom. Nous, on n'a pas besoin. Par exemple, si je m'attends, je veux te bénir, je n'ai pas besoin de dire Yosef ben Myriam. Je n'ai pas besoin de dire ça, puisque tu es en face de moi. D'où est-ce qu'on apprend ça? Midoraita. Ici, de Yitzhak. Vaïten Lecha, puisque tu es là. Lecha, il le voit. Si je ne le vois pas, si je bénis quelqu'un que je ne vois pas, j'ai besoin de son nom, du nom de sa mère et de son père. Peu importe, c'est Minagim. Ou père ou mère. Mais si la personne est en face de moi, il reste un chèque que je trouve à l'autre. Autra. Ma chanero et Dieu, il ne voit pas. Ce que moi, je vois, Dieu, il ne voit pas. Mais la reine, il n'y a pas besoin de donner le nom d'une personne quand il est en face de nous. En tout cas, l'esparadim, c'est notre chita à nous. Ok? Mais la reine, ici, qu'est-ce qu'il dit Yaakov, Yitzhak à Yaakov, Vaïten lecha à Elohim. Que Dieu te donne à toi. Donc, il ne dit pas ni Esav, ni Yaakov. Il parle à celui qui était là. Quand est-ce que ça aurait pu être ambigu si au même moment était rentré Esav? Comme il ne voit pas Yitzhak. Il dit, va éteindre l'écha, mais il marche chez l'écha, ou la zélie. Donc il leur dit, anime chaven, j'ai l'intention de bénir celui qui m'a apporté les plats. Et à ce moment-là, il définit plus Yaakov que Esav. Hein? Comme on le voit, kachna et bincha et tichidecha, asheravta et Yitzhak. Vous voyez bien qu'à chaque fois, on augmente jusqu'à ce qu'il lui donne le nom. Pourquoi lui donne le nom et Yitzhak? Parce qu'il n'était pas là. Sinon, on leur dit, prends-le lui, leur montrer. Et je finis avec ça pour ce chiour qui dit quelque chose qui fait partie de l'éducation la plus importante. Quand il a entendu cela, Kevan shamay Yitzhak she'esav omer bichaoti, donc il lui a dit Ula elo asiti kashura, basof tsa'ak esav tsa'ka gedola umara ad me'od. Esav s'est mis à hurler de douleur et son cri a laissé couler deux larmes plus une larme. C'est pour ça que tous les matins, on met deux pièces dans la tzedaka, dans le mot bakol, plus une pièce. Pourquoi deux pièces et une pièce? Les deux larmes qui ont été versées pour atténuer ce digne de Esav qui veut se venger, on met deux pièces. Et après, on en met une derrière. On ne met pas trois pièces en même temps. Deux et un. Parce qu'il y a une larme qui est restée collée à l'œil comme souvenir à garder pour se venger de la descendance de Yaakov, le peuple juif. Contre cette larme-là qui est restée collée. Donc, un des remèdes les plus importants qui peut sauver le peuple d'Israël des mains des nations du monde, c'est la tzedaka. Ce que dit le prophète, Yerushalayim bitzdaka tipade, c'est grâce à la tzedaka qu'on aura la geoula. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de gens qui nous demandent de l'aide. C'est pas pour nous casser les pieds, c'est pour nous donner le mérite de rapprocher plus vite la geoula encore et de ne pas trop souffrir. L'argent en contrepartie de la vie. Voilà. Très important à retenir. Alors, je finis avec ça ici sur cette phrase super importante. Vous avez remarqué à qui Esav il pleure? À Dieu, il n'y croit pas. Il est athée, ça. Il ne croit pas ni au Geinam, ni au Gan Eden. C'est un animal philosophique qui a pour philosophie que dans la vie, ben, c'est la loi du talion, c'est la loi du plus fort. Tant que tu peux gagner, tant que tu peux arnaquer, tant que ça marche, eh ben, c'est comme ça qu'il faut vivre. Donc Dieu, il le crée à son image. En d'autres termes, il imagine un Dieu qui est comme lui. C'est ce qu'on appelle la Avodah Zara, créer un Dieu, mais créant, qui va correspondre à l'immoralité de ce que je suis pour me donner bonne conscience. Donc me créer une idole, si vous préférez. Mais il y a quelque chose de grandiose ici. C'est que si Esav ne croit pas en Dieu, si Esav pleure devant son père, à qui s'adressent ses larmes? À son père. Et son père va lui donner une bracha. Et pourquoi c'est si important d'entendre ça? Je vais vous dire pourquoi. Dans une famille, on a toujours, qu'on le veuille ou pas, un des enfants pour qui on est un peu plus proche, parce qu'il va plus nous ressembler, parce que chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il a toujours été là, contrairement à l'autre qui n'a jamais le temps. Et à un moment, ça travaille. Pour un père et une mère, que tu le veuilles ou pas, quand tu as toujours un fils, oui papa, oui maman, que bon, et je vais partir, ah, tu ne peux pas venir m'aider, maman, je rappelle, je viens avec toi. Ben, au bout d'un certain temps, il n'y a pas une préférence qui s'installe, mais il y a une préférence naturelle qui s'installe. Ce n'est pas que je veux le préférer, c'est que la vérité, il est tout le temps là pour moi, il ne me fait pas son priorité, il gagne des points. Et quand tu as l'autre à côté qui ne cesse de te demander et qui n'est jamais là pour toi, tu l'aimes, c'est ton fils. Mais enfin bon, si tu avais pu choisir autre chose, tu l'aurais fait. Tarles. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Yitzhak, comme il a vu que Rivka aimait plus Yaakov pour ses qualités, il a dit, alors moi je vais aimer Esav. Quel intérêt il y a à le faire? L'intérêt, c'est que quand un enfant a une proximité, un langage avec son père ou avec sa mère, il ne fera pas de bêtises. Quand tu as habitué un enfant à être complice, à te parler, à le mettre en confiance, alors au lieu d'aller se suicider ou de faire de grosses bêtises, l'enfant, il est prêt à éclater devant son père en disant, voilà, papa ou sa mère, la personne qui sera le plus proche, des fois, ça peut être le grand frère, patronne, il va se confier à lui. Mais quand on condamne un enfant parce qu'il ne correspond pas du tout à ce qu'on attendait de lui, il n'est pas dans le chemin de la Torah, et puis que des bêtises, et il est vulgaire, et tu le laisses tomber. Tu le laisses tomber. Allez, va crever. Tu veux crever? Va crever. Ah, ouais. Alors, si tu regardes bien le texte, il est marqué Vayav, Yitzhak et Esav, et Rivka ou Evet. D'abord Esav. Rivka a aimé Yaakov. On viendra sur le cours de ce soir, on va en parler. Parce que Yitzhak s'était attaché à Esav. Mais qui te dit que si Esav avait été délaissé, Rivka n'aurait pas accepté Esav? N'oublie pas qu'elle vient de la maison de Bethuel. Alors, justement, ça rejoint un peu l'éducation que je vous ai dit. C'est très important dans une famille que quand il y a un enfant qui n'est pas à la hauteur de nos espérances minimales, eh bien qu'un des deux parents prenne sur lui de s'approcher encore plus de lui. Pourquoi? Eh bien justement pour éviter les guerres fratricides ou les suicides, tout simplement. C'est qu'il faut toujours que l'enfant, il est quand même avec qui parler à la maison. Vous ne pouvez pas tous me condamner parce que je suis ce que je suis. Donc c'est un peu difficile. Ça ne veut pas dire qu'on doit briser les frontières des moralités ou les frontières minimales de l'éducation. Mais on ne peut pas tous fermer la porte, et c'est ce que nous apprend Yitzhak dans cette paracha. Si toutes les portes se ferment pour un enfant, il n'a plus d'autre choix que de se jeter dans le premier qui lui tendra les bras, c'est-à-dire les forces du mal. Mais si, malgré tout cela, le père y vient, et il prend son fils dans les bras, il l'embrasse, il n'a pas la kippa, il n'a pas les titites, il est homo, il est ce que tu veux. Alors on va condamner ce qui est mauvais chez lui, mais on ne peut pas condamner ce que lui, il est. Mais par contre, il ne va pas nous imposer aussi. C'est-à-dire que les choses soient claires. Même s'il est marié avec une Goya, pourquoi? On n'a pas été avec des Goyotes, on n'a pas fait des bêtises. Quand tu vis dans cette génération où moi, avec un chapeau ici, en Eretz Israël et Tsari Arabe, je passe et que des Russes me font comme ça, si tu putes, toi le religieux, excuse-moi, mais quand tu vis dans ce que tu vis aujourd'hui où on te regarde comme un parasite parce que tu étudies la Torah, parce qu'on est vraiment à la fin des temps, ben, je comprends très bien qu'un enfant, il dit pourquoi tu veux que je sois religieux? Pourquoi tu veux que je sois religieux? On vous déteste, les religieux, vous n'avez pas d'oseille spécialement, vous aidez ceci, cela. Donc je ne veux pas justifier tout ça. Je dis simplement, il faut aussi comprendre cette génération. Il faut comprendre cette génération, ce qu'elle vit, ce qu'elle voit à la télévision, ce qu'on lui montre. Okay? Quand on voit que dans les écoles anglaises aujourd'hui, en Angleterre, on t'apprend que, ou en Israël, hein, ou en France, hein, que l'enfant qui a 5 ans, qui ressent qu'il veut être habillé comme une fille, vient en robe à la classe avec du maquillage, hein. Pourquoi tu veux que l'autre enfant de 5 ans, il ne voit pas ça comme une normalité? Puisque c'est ce qu'on a... Inculqué. C'est ce qu'on inculte à... inculque. C'est le que j'arrivais pas à trouver. C'est ce qu'on éduque, inculque à nos enfants. C'est une normalité. Quand tu vois, par exemple, à la télévision, toutes les pubs, les films, il n'y a que des femmes nues, dénudées, dénudées. Ton fils, avec son portable, toute la journée, il voit ça. Et toi, alors mon fils, ça va ? Ouais, bon, bah, pour lui, il n'y a pas de problème d'épouser, de t'amener une fille en jupe courte. Elle est habillée. Elle est normale. On a normalisé la normale. On a retiré les frontières de toutes les moralités de ce monde. Donc, eux, ils grandissent là-dedans. Nous, on a vécu deux époques. Vous savez qu'on appartient à deux époques. Celle des téléphones de... et celle des portables. D'accord ? Nous, on a connu Candy, Albator, Princesse Sarah, c'est les films moraux. Tu regardes les films des années 80, ils avaient une moralité. Le méchant, c'était le méchant. Le gentil, c'était Aujourd'hui, Madame. C'était émission... Alors, oui, alors, Jacqueline, vous dites... C'était mignon, c'est... Dorothée, Blider Caca, mais c'était... hein, Casimir. Mais L'île aux enfants, il n'y avait pas de violence, c'était que du bonheur, c'est sympathique. Et puis, la peluche, tu vois, c'était une peluche. Aujourd'hui, les mangas, les machins, mais les meufs, dans les dessins animés, elles sont plus belles que toute ta famille. Ils imposent tout. Quand tu vois une publicité en Israël, dans notre terre, la terre sainte, que Dieu nous protège, et tu vois, la pub, c'est quoi ? C'est l'enfant qui vient se brosser les dents. Et tu as deux mecs qui viennent se brosser les dents au milieu. Ça, de chaque côté. C'est papa et papa. D'accord ? Ben, l'enfant, quand il voit ça, ben pour lui, être homosexuel, c'est pas... Ben, quel est le problème, quoi ? Qu'est-ce qui vous arrive, les mecs ? Parce que c'est gravé en lui. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, il faut comprendre cette génération. Il faut comprendre. Quand tu vois qu'aux États-Unis, dans les universités, les femmes entre elles disent « Mais quoi, t'as jamais essayé d'aller avec une femme ?» Mais ils en parlent comme si je te dis « Excuse-moi, t'as un chewing-gum ?» C'est « Quoi, t'as jamais fait ça ?» Quoi ? Vous savez, des parents... Enfin, je ne vais pas rentrer dans tout ce que je rencontre, mais... C'est... Un père, il dit à sa fille qui a 13 ans « Quoi, t'as pas encore couché ?» Un père, j'ai pas dit... Un mec, il lui dit, j'ai pas dit sa copine. Un père dit à sa fille, ok ? Vous comprenez de quoi on parle ? Quoi, t'as pas encore connu le mec, ma fille ? Mais comment ? Comment ? Où tu vis ? Mais la reine, il faut comprendre cette génération, c'est pas notre génération. Et on fait une grave erreur à chaque fois, on leur dit, mais tu sais qu'à mon époque, de regarder mon père dans les yeux, oh, oh, mais de quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Encore de la chance, papa, d'avoir des yeux, Bichlal. C'est à qui tu parles ? Vas-y, va, là. Avant, quand tu te faisais attaquer par des voyous dans le métro, ils avaient, à l'époque, des rasoirs électriques. Après, ils avaient des lames. Aujourd'hui, ils ont des revolvers. On est dans un autre monde. On est dans un autre monde. Tu fais une vidéo, il n'y a pas un meurtre, il n'y a pas un truc qui se suicide, il n'y a pas un animal qui dévore un mec, mais ça ne marche pas. Fais un film aujourd'hui moral. Tiens, et aujourd'hui, tu fais « Autant on emporte le vent dans notre génération. Ouais, »« Autant on emporte le vent. » Tu sais comment ils vont l'appeler, les jeunes ?« Autant on emporte la rasera, tu vois. » Mais à qui ça parle ? À qui ça va plaire ? Qui c'est qui va regarder ton film ? S'il n'y a pas une super gonzesse à poil, s'il n'y a pas un meurtre et un héros qui est hyper immoral, ça ne marche pas. Personne ne va aller le voir. La moralité ne marche pas aujourd'hui. Vous vous rendez compte, j'ai appris ça avec le Rav Gobert, on a fait une émission, que Dieu le bénisse. J'ai appris, hein, je ne savais pas. Aux États-Unis, ils ont fait une série d'une famille orthodoxe, Bells ou Gour, je ne sais pas quoi, d'une femme donc ultra-orthodoxe qui a réussi à se sauver, ou je ne sais pas quoi. Hein ? Je ne connais pas, peu importe. Moi, je n'ai pas de télévision, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il m'a raconté. D'accord ? Enfin, dans l'émission, on n'en parle. J'étais choqué. Vous savez que c'est la série la plus regardée des États-Unis ? Ouais. Des millions et des millions de personnes. C'est la série numéro 1. C'est un carton mondial. Mais pourquoi ? Parce que, comme le monde de la Torah, le monde religieux, est censé représenter la plus grande lumière, regardez l'histoire d'une fille. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais ce n'est pas l'ensemble des choses. Et qu'est-ce que ça fait ? Vous savez ce que ça fait, ça ? Ça fait d'abord des préjugés, et ça fait surtout que je ne veux surtout pas connaître la Torah. Si c'est ça, la Torah, qu'est-ce que ça donne comme conscience quand tu vois ce genre de film ? Dans cette génération, pour la parenthèse de l'éducation, eh bien, ça fait que le mec qui n'est pas chômeur quoi que ce soit sur Terre, qui est juif, hein, bien sûr, et qui voit ce genre de film, il dit bah, « je préfère rester chiloni comme je suis que d'être un violeur de femmes avec des péotes et un shtreimel, ces bêtises ». Ça donne bonne conscience, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Surtout pas la réalité. on fait des caricatures terribles en ce qui nous concerne. Ouais. Mais si tu fais une caricature d'un prophète d'une autre religion, c'est tous les pays qui se lèvent. Mais quand c'est nous, avec Yehudim Baim, cette série qu'ils ont fait honteuse, en faisant passer Esther pour une prostituée, en faisant passer Moshe Rabbeinu pour un bègue handicapé mental, en faisant passer le roi David pour un homosexuel, vous avez vu ce qui s'est passé, ces trucs. Et les gens sont morts de rire. Alors quand ils nous voient, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient exactement cette caricature, parce que à force, c'est comme la pub. La pub, on te la met, tu arrives dans les rayons, tu vas prendre directement ce que tes yeux ont vu. C'est le côté de la pub. Nos enfants naissent dedans. Quand tu as un enfant normal dans cette génération, il faut faire une soudat au daya. Ils sont dans un monde totalement envahi par la débauche depuis leur naissance. Et la colère familiale, et la colère des couples, et les divorces de partout. Mais en quoi tu veux qu'ils croient, tes gosses? Alors si en plus de ça, nous, on les condamne, il ne fallait pas les perdre. Ils n'ont plus personne. Pourquoi Yitzhak, il aime Esav? Parce qu'il dit, puisque tout le monde lui ferme la porte, je suis obligé d'en ouvrir une. Je ne peux pas, moi, le condamner. La reine, ça ne veut pas dire accepter l'immoralité. Ça ne veut pas dire ça. Une femme m'a appelé il y a 2 ans de cela en me disant, ma fille est homosexuelle. J'ai dit, top, voilà, c'est... Ok. Elle me dit, non, mais je veux savoir, qu'est-ce que je fais? Je la condamne. Je lui dis, madame, putain, vous la condamnez, c'est votre fille, non? Pour le meilleur et pour le pire, c'est votre fille. Oui, mais elle veut m'imposer l'autre à la maison. J'ai dit, ça par contre, non. Ma fille, tu es mon amour, tu seras toute ma vie ma fille, mais tu ne m'imposes pas une copine ici, tu as des frères, c'est pas moral, anime l'homme et cabelle. Mais toi par contre, voilà la clé de la maison. Tu es chez toi ici, ma fille. Mais tu ne peux pas m'imposer tout comme moi. Je ne t'impose pas l'immoralité de ton immoralité. Je ne t'impose pas quoi que ce soit. Ne viens pas me l'imposer. Et c'est ça qui me débecte. C'est ça qui me dégoûte dans cette génération. C'est que la normalisation ne doit aller que dans un sens. Le respect ne doit aller que dans un sens. C'est-à-dire que c'est tout le temps au monde religieux, au monde de la moralité, de comprendre ce qui ne va pas assez. D'accepter et de comprendre les autres. Et là où je trouve ça dommage, c'est que ce n'est pas rendu. On ne comprend pas. Par exemple, Chas v'Shalom, moi je suis homosexuel, Chas v'Shalom. Ok ? Non, t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Mais, ok ? Ben, moi, ce que je ferais, c'est que, voilà, je ne veux pas vous gêner, non, je viens Pessah. Je comprends très bien que je ne vais pas venir avec lui. Je ne sais pas, un peu de jugeote, quoi, je veux dire.
Mais quelqu'un qui ne sait pas, tu ne vas pas fumer Shabbat
chez vous. Ben, tu fumes, viens pas Shabbat à la maison fumer. Mais par contre, je comprends que tu veuilles descendre en bas, prendre ton paquet de cigarettes, fumer. Je ne veux pas te juger. Parce que moi-même, je fumais à une époque le Shabbat. Donc, je ne veux pas te juger. Je comprends que tu n'es pas encore au niveau de le faire. Mais ne viens pas imposer. Tu ne veux pas qu'on t'impose, ne viens pas imposer. Tu veux être homosexuel chez toi, sois-le. C'est ton problème, c'est entre toi et Dieu, c'est dommage. Mais bon, on ne peut pas refaire le monde. T'es né comme ça. Peut-être que... Yesh, arbe malagi dalze. Mais que tu m'en fasses un défilé pour dire je fais ce que je veux, je t'en merde, et voilà ce que je vais montrer à tes enfants, et je me promène à poil, et je m'embrasse comme ça, et je fais ce que je veux, et je vais te montrer que c'est moi qui ai raison. Là, par contre, c'est un viol de privé. Tu rentres dans ma vie privée, dans mon domaine à moi, et quel est l'intérêt? C'est ça qui est inadmissible. Tu veux pas qu'on te juge, pas de problème. Ne nous juge pas non plus. Tu veux pas qu'on te juge parce que toi, tu vis ce que tu vis. Alors ne me juge pas non plus de vivre ce que je vis. Non. Ça va toujours que dans un sens.
La tolérance n'a qu'un sens.
Et ça, c'est inadmissible. Je n'ai qu'à Bezrat Hashem, Yeshua de Nechamot, et de retenir cette petite parenthèse que un peu d'amour peut être la lumière qui deviendrait l'espoir d'une grande obscurité dans notre éducation. Baruch Adonai l'Olam, Amen v'Amen. Ashuraya pour l'élévation de Yaakov Roger Ben Birsa et Atani ou Khatani. Zichron Rochav, Roi Hashem Tanahem Ganeden Lyon, Echol Ashurim Lo. C'est pour jeudi soir l'Askara, mais le Shur a déjà été fait maintenant pour que le mérite du Tzibour fasse monter son âme jusqu'au Ganeden. Kol Tov.